Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Au lieu d'aller se noyer au large de Calais, dans une eau glacée et dans une incurie étatique effroyable, les émigrés de toutes les misères auraient mieux fait d'aller passer une soirée chez Jeff. À une soirée chez Jeff, on y va par amitié, pour faire plaisir à ce bourru, pour avoir chaud même en été, pour boire un coup aussi bien sûr. À une soirée chez Jeff, on y goûte la chaleur qui vous frissonne, qui vous mouille les yeux et qui repasse vos fripes. À une soirée chez Jeff, c'est la découverte de contrées amicales gagnées à coup de rien, sauf de partages improbables avec des inconnus éphémères et des amis pour toujours qui colonisent votre âme pour l'habiter en conquérant. Une soirée chez Jeff, c'est la rencontre avec sa voisine que l'on croyait connaître. On se disait bonjour au hasard des journées. Désormais, c'est au petit-déj et dans l'intimité. À une soirée chez Jeff, j'y suis allé il y a peu de temps et déjà la nostalgie me prend. De cette soirée chez Jeff, je n'en suis pas revenu. Il y avait un artiste, sourire espiègle, gamin chenu. Et comme je vous aime bien, amis inconnus, je m'en vais vous chanter une chanson que j'y ai entendue, entre autres. Allez, je me lance. C'était une blague pour la monnaie. Le mieux, c'est de retourner chez Jeff et succomber au charme de Bernard Joyer.
Certains de nos congénères ont la manie bien singulière de tomber bêtement amoureux de plus jeunes qu'eux. Quelques dangereux maniaques qui de leurs ardeurs démoniaques vers les tendres ont les jouvencelles et les pucelles. Gamines, nubiles, novices sont l'objet de leurs sévices. Ils font la sortie des lycées, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance perpétrée par ces renégats fait du dégât. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage. Vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. De ce côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile. La bonne soupe est dans les vieux pots, c'est mon topo. Et viens mes mères, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. J'aime les doyennes et les douairières et les grisonnes et les rombières, les femmes d'académiciens, je fais dans l'ancien. Maison de retraite, hospice, voilà des endroits propices, on a calvé le petit doigt, on a le choix. J'aurais d'après les psychologues l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire, de l'antiquaire. Viens mes mères, le temps fait du bien à l'affaire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Dans les cimetières, il y a des veuves presque fraîches, presque neuves, qui tomberaient la culotte de deuil en un clin d'œil. Tant de soldats morts en campagne ont abandonné leur compagne en panne sur la page 3 du Kama Sutra. Celle-là ne demande qu'à nous suivre, histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Viens mes mères, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez quand vous serez bien vieille, ridée, décrépite et dentée, ça peut me tenter. La muette amplifie le geste pour montrer qu'elle a de beaux restes, et la sourde crie bien plus fort, encore, encore. Madame, quel désir vous agite, c'est le diable qui vous excite. Non, monsieur, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. Viens, mes mères, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Parfois ma déraison s'égare, je rêve de la perle rare qui aurait connu la maman de Jeanne Calment. bien.
C'était le gérontophile de Bernard Joyer, accompagné au piano par Nathalie Miravette. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Vous y trouverez un traité d'aristologie signé Hervé Richoux. Vous y trouverez également un texte lu par votre serviteur et signé Édouard Jouan, un point, c'est tout. Dans une quinzaine de minutes, ce sera le tour de Jean-François Rechner de nous conter une fable de son cru, une histoire de peau en terre ou de peau en tas ou potenta, enfin, nous verrons bien. Et nous terminerons ce programme en ouvrant la grille de lecture de Dominique Scandella pour qui il existe un lien étroit entre l'évolution de la démographie française et la révolution agricole contemporaine. Et comme promis, je laisse la parole, si j'ose dire, à Édouard Jouan. Je n'ai rien à vous dire, un point, c'est tout. Voilà une formule autoritaire, sentencieuse, dont le but est de mettre un point final à la discussion en cours, celle qui a tendance à tourner en rond dans un sens contraire à la pensée du chef qui l'a asséné pour reprendre le contrôle du débat. Posons-nous quand même cette question, un point est-ce vraiment tout ? C'est surtout, au pied de la lettre, beaucoup de choses suivant les points de vue. C'est même énorme, dirait Lucchini, mauvaise imitation, si l'on tient compte des innombrables pointillés et points de suspension qui, au-delà de leur utilité première, souvent mis en doute, en disent long sur l'embarras de celui qui s'exprime et qui préfère laisser à son interlocuteur le soin de terminer sa phrase. Le point, c'est aussi plein d'ambiguïté dans la mesure où il peut être d'accord ou bien de désaccord. Source d'imbroglio possible, il peut devenir un point sensible, comme le douloureux point de côté. Aussi est-il conseillé de s'arrêter souvent pour faire le point. Parmi les autres points à aborder, il y a le point d'interrogation, qui se pose des questions sur ce qui vient d'être écrit, et celui d'exclamation, qui fait semblant de s'en étonner, et puis n'oublions pas cet étrange point-virgule qui hésite toujours et vous laisse un choix délicat entre le stop impératif et le cédez le passage. D'où l'intérêt du point à la ligne qui remet tout en place. Nous éviterons les ennuis en écartant certains points sujets à discussion et privilégierons, pas facile à dire, certains autres qui peuvent servir de point de repère et nous permettront de tomber d'accord sur un point. Un point, c'est quand même beaucoup de choses si ce n'est pas tout. On peut ajouter que dans des situations difficiles, à condition de ne pas être trop mal en point, surtout pas au point mort, on peut aussi mettre un point d'honneur à clarifier la situation et à mettre les points sur les i. Enfin, il ne faudrait pas oublier, c'est la moindre des politesses, qu'il est toujours apprécié d'arriver à point au point de rencontre. Un point à l'endroit, un point à l'envers, à chacun de tricoter sa vie du mieux qu'il le pourra, en évitant tout excès de vitesse et de précipitation pouvant entraîner une suspension de points, même au rond-point. Un dernier petit mot et pour conclure, le steak, comme le permis de conduire, sera servi à points. Voilà, j'espère ne pas avoir trop mal restitué le texte d'Édouard Jouan, que je remercie vivement, et à qui j'adresse tout de même un reproche. Il a oublié le contrepoint dans son histoire de points, d'où ces quelques mesures extraites de Invention numéro 13 en la mineure de J.S. Bach au piano Andreas Schiff. Le moment est maintenant venu d'ouïr la chronique d'Hervé Richoux, Hervé Richoux qui m'inquiète de plus en plus.
Aristide adorait, petit, jouer à ce jeu de cartes dit de cette famille. Dans la famille Jardin, je demande le grand-père. La carte représentait un vieux et respectable jardinier moustachu, coiffé d'un chapeau et chaussé de sabots, poussant noblement une brouette chargée de paille blonde. Ainsi, grâce à ce jeu, peut-on, ces dimanches après-midi haïs par Aznavour, reconstituer des familles d'artisans, de sportifs, de commerçants? À la ferme, on retrouve la famille des gallinacés ou des ruminants. Au cirque, la famille des fauves ou des acrobates ou des clowns. À l'hôpital, la famille des spécialistologues. Oncologues, pneumologues, endocrinologues et autres gastro-entérologues aux noms indigestes. D'aucuns diront comme au cirque, mais bon. Dans la famille ufologue, je cherche la petite fille. La carte représente une enfant tenant au bout d'un fil un ballon gonflé à l'hydrogène ou un cerf-volant, allez savoir. Dans la famille ufologue, l'objet volant n'est pas identifié. C'est la spécialité de l'ufologie, discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés. Dans la famille des logs, Aristide demande le couillologue, l'informaticologue et ses deux adjoints, le Mac-cologue et le PC-logue. Le Netflixologue pour consulter l'album des séries. Enfin, pour commander ses chaussons d'hiver et son pyjama XXL long, molletonné, en coton mélangé gris-bleu, Aristide consultera le catalogue. Mais aujourd'hui, c'est le psychologue qui met en garde Aristide, l'invitant dans sa vie à rebattre les cartes pour éviter de finir au jeu de la société, croqué, assis dans son fauteuil devant la cheminée presque éteinte, comme le grand-père dans la famille des monologues.
Merci Hervé, et pour rester dans le thème, je nous propose, comme dirait Michel Onfray, d'écouter Jean-Louis ou le monologue du client, interprété par Yves Jamais.
Vois-tu mon vieux Jean-Louis, j'ai comme des langueurs, c'est semblable à des cris, ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu, jusque dans les artères, comme ce vin trop vieux, t'aurais laissé ouvert ce monde-là mes cœurs. Regarde les non-chefs qui font pousser des fleurs au bord. Les SDF, on les emmerde tous. Serre-moi n'importe quoi, je m'en fous pourvu que ça mousse. Et toi, qu'est-ce que tu bois s'ils nous prennent pour des cons? Ne fait-on pas tout pour? Y a plus de révolution, mais y a toujours une coupe. Ils nous fliquent, ils nous guettent, nous brident et nous contemplent. Moi je veux bien être honnête, mais je manque d'exemple. Ils n'en ont pas fini de nous laisser pour dupes, pratiquant l'alchimie seul du parachute, tandis qu'on se bat pour ramasser quelques miettes. Ces coques de basse-cour enfoirées nous raquettent. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. Ce monde nous échappe, on n'est plus que des cons à passer à la trappe, celle des générations. Je regarde mon ombre, elle ne me ressemble pas, elle est plus grande que moi, tiendra-t-elle dans ma tombe? En attendant ce jour qui sera peut-être une nuit, je voudrais un peu l'amour d'une femme jolie qui oublierait mon âge et serait amoureuse, enfin même de passage, que je rendrais heureuse. Je voudrais de son corps parcourir les silences, ne faire en m'approchant pas plus de bruit qu'une ombre, qu'elle m'ouvre les bras et accepte la danse d'un sourire éclairant son visage trop sombre. Vois-tu, j'ai mal aimé, tu vois j'ai mal au corps et j'en ai mal encore, tellement j'ai mal aimé, mais j'en ai vu passer des pachydermes roses bien plus souvent.
parle, on parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. Je me sens tellement seul que j'en ai le vertige. Je sais, je suis pas le seul, mais toi, au moins tu piges de cette solitude. J'ai fait mon ordinaire pour prendre l'habitude. J'ai laissé le temps faire, vois-tu, mon vieux Jean-Louis. Là-haut, la lune est pleine. Je sens bien que moi aussi, mais j'ai tellement de peine. Voir ça réchauffe le cœur, même si ça nique le foie. Pour sortir de la torpeur, que veux-tu, je bois. Allez, mon vieux Jean-Louis, serment donc une dernière. Je me sens un peu aigri pour te dire, je suis amer. Nos vies se recroquillent. Va falloir se faire, le monde part en vrille, mais qu'il aille donc se faire. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir.
Ok, on se disperse, mais avant, on va écouter la fable de Jean-François Rechner.
Loin de chez nous, un potentat, quoiqu'impotent, se pavanait et faisait l'important, écrasant du regard ou bien de sa voiture tous ceux qui faisaient preuve d'un peu de culture. Ce despote maniaque n'avait jamais admis que quiconque lui portât la contradiction. Ce paranoïaque n'avait donc plus d'amis que des flatteurs lui donnant leur bénédiction, espérant tirer de ce pseudo-dévouement sans jamais travailler de bons émoluments. Or, quoique très riche, il était aussi avare, exigeant que pour tout on lui rendît des comptes, vérifiant chaque objet des greniers au hangar. Pour ses achats, ne versant jamais d'acompte, il prétendait, sans jamais avoir rien appris, tout savoir sur chaque chose ainsi que son prix. Un jour, il ne voulut plus payer ses laitages. Son fermier lui dit que ce n'était pas sage, que sans argent, il mourrait de froid et de faim. Un métier n'est plus utile, exercé en vain. Mais le roi ne l'entendait pas de cette oreille. Sans beurre, il mangerait bien de la confiture, mettant au chômage le paysan et ses pareils, les obligea à devenir maçons. C'est dur. Leur dit de refaire tous les sols de son château, de se dépêcher, car il n'était pas très tôt. Si brisé, les barates, quelle déconfiture! Ordonna de mettre les morceaux aux ordures. Alors, les agriculteurs, fort mécontents, décidèrent de tout lui faire payer comptant. Ils mirent dans le ciment les débris de leur peau afin que le monarque se blesse la peau, car il marchait déchaussé, exposant ses pieds. Tant pis, il n'avait qu'à laisser les peaux entiers. Il put, soignant ses plantes avec ses mains, méditer, réfléchir, seul dans son jardin, tirer de cette aventure la moralité dans l'ennui de longues journées alitées. Quand on fait son beurre, même grand potentat, il faut se méfier des petits pots en tas.
Notre sentier près du ruisseau et déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Les feuilles, les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils. Ma main
C'était Le Sentier, écrit et composé par Félix Leclerc dans les années 50 et revisité par Catherine Major. Cette artiste québécoise a récolté de nombreux prix au fil des ans, dont le prestigieux Coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Et on reste à la campagne en ouvrant la grille de lecture de Dominique Scandella, où il est question de révolution agricole. Ma première question est la suivante. Quel rôle a joué la démographie dans cette révolution agricole ? Réponse de Dominique Scandella.
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'accroissement de la population mondiale, et spécialement française, a suivi une droite très légèrement ascendante, avec des chutes dues aux guerres, aux épidémies et aux accidents climatiques provoquant des famines, suivies de brèves périodes de reprise. Au cours du XIXe siècle, et plus encore au XXe, l'ascension de la courbe démographique devient vertigineuse. Paul Béroc, historien de l'économie, nous démontre dans son ouvrage « Victoires et déboires » que la mutation démographique et la révolution industrielle n'ont été possibles que grâce à une révolution agricole préalable. En effet, sous l'Ancien Régime, la faiblesse des rendements agricoles ne permettait à la paysannerie de vivre que très légèrement au-dessus du seuil de subsistance. D'une façon malthusienne, la disponibilité des ressources alimentaires était le régulateur de la population. Les surplus dégagés par la paysannerie ne laissaient émerger de la misère générale que le très faible pourcentage de population constituant les classes aristocratiques, cléricales et bourgeoises.
Pour se donner une idée de ce qu'a pu représenter cette révolution agricole, pourriez-vous maintenant nous parler des rendements agricoles sous l'Ancien Régime par rapport à ceux qu'ils sont aujourd'hui ?
Sous l'Ancien Régime, pour un grain semé, on en récoltait 3 ou 4, jusqu'à 6 dans le meilleur des cas. Les terres étaient en outre soumises à de longues jachères et peu densément exploitées. Aujourd'hui, on récolte 50 à 60 fois la semence et toutes les terres disponibles sont mises en culture. Quand on compare la superficie que pouvait cultiver un paysan et sa famille à la superficie moyenne des exploitations d'aujourd'hui, le coefficient multiplicateur est encore d'au moins 30. Quant au rendement à l'hectare, il a été multiplié en moyenne par 5. Cela veut dire que la productivité d'un travailleur de la terre a été multipliée par un ordre de grandeur de 150. Aujourd'hui, avec ces 3% d'agriculteurs, sachant que l'on gaspille près de la moitié des aliments produits, la France est largement exportatrice, alors qu'elle était à peine autosuffisante sous l'Ancien Régime, avec plus de 90% de paysans.
Mais comment une telle révolution a-t-elle été possible ?
Cela a commencé aux Pays-Bas dès la Renaissance. Riche de son commerce, le pays était très densément peuplé. Des capitaux étaient disponibles pour investir dans la recherche de productivité agricole. Les jachères furent remplacées par des cultures légumineuses et fourragères qui avaient le double avantage d'apporter de l'azote au sol et de fournir une alimentation pour les animaux d'élevage qui, à leur tour, produisaient du fumier enrichissant la terre. Couplé à une amélioration de l'outillage, ce cercle vertueux permit une considérable amélioration de la productivité. Ces techniques se diffusèrent ensuite en Angleterre. Des agronomes comme Geoffrey O'Toole avaient déjà amené quelques améliorations culturelles. Au XVIIIe siècle, les lois sur les enclosures, qui rendaient obligatoire la clôture des champs, empêchèrent de ce fait les petits propriétaires de faire paître leurs bêtes sur les terrains communaux. Les pauvres furent ainsi chassés de la campagne au profit des grands propriétaires de la gentry qui avaient les capitaux nécessaires pour moderniser leurs exploitations. Les petits paysans réduits à la misère n'eurent pas d'autre choix que de s'exiler en ville pour travailler dans les usines textiles, ce qui permit l'essor de la révolution industrielle.
Dominique, vous nous avez expliqué ce qu'il s'était passé en Hollande et en Angleterre, mais qu'en était-il en France ?
Pour de nombreuses raisons d'ordre sociopolitique, la France fut beaucoup plus tardive dans son évolution agricole, ce qui explique son retard sur l'Angleterre dans son développement économique. Cette résistance au changement se manifeste encore aujourd'hui, où les principaux représentants du monde agricole usent de leur grande influence pour empêcher la nouvelle révolution agricole qui est indispensable pour mettre fin au ravage de l'agriculture industrielle basée sur la chimie.
Mais je suppose que vous nous en reparlerez un de ces vendredis.
Oui, c'est un vaste sujet, assez polémique à vrai dire, et qui va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Il est difficile de le résumer en 5 minutes, mais il réapparaîtra certainement dans d'autres chroniques.
Merci Dominique Scandella. Votre sujet a été exposé en moins de 5 minutes, donc bravo et à la semaine prochaine. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Édouard, Hervé, Jean-François et Dominique. On se retrouve la semaine prochaine, mais quand vous voulez, sur le site balado-gazette.fr. Nous avions tous repris l'habitude de bisouter notre cousine, et bien désormais, il va falloir se serrer les coudes. On se quitte avec Peter Green, Man of the World. C'est que de la douceur. À ciao.